l'histoire d'Antiochus Épiphane, 8e roi de Syrie qui a laissé des souvenirs aussi funestes dans l'histoire, n'est que le type d'un roi au visage audacieux, d'un roi du Nord qui sera sur la scène demain. C'est la petite corne du chapitre 8 qu'il ne faut pas confondre, on y a insisté tout à l'heure suffisamment, avec l'autre petite corne du chapitre 7. La petite corne du chapitre 7, c'est le chef de la dernière monarchie de l'Empire romain qui va renaître, qui va connaître une sorte de résurrection et qui aura à sa tête la première bête de Daniel 13, de Apocalypse 13. Évidemment, il n'est plus dit dans la quatrième bête parce que l'Esprit de Dieu suppose que nous savons bien qu'il y a eu trois bêtes dans le passé dont l'histoire est terminée. De sorte que quand il est question de la bête, dans Apocalypse 13, il est bien évident qu'il s'agit de la quatrième bête de Daniel. Et des 10 rois va se lever un roi qui va en abattre 3 et qui va jouer un rôle extraordinaire. C'est la première bête qui monte de la mer, de l'ensemble de peuples en conjonction, comme cela sera demain, pour jouer le rôle final avec l'autre bête, l'Antichrist, qui monte, elle, de la terre. Et tous les deux, chose solennelle et exceptionnelle, tous les deux, jetés vifs dans les temps de feu sans passer par la mort. Comme deux hommes sont montés au ciel sans passer par la mort. Deux hommes seront jetés vifs par le Seigneur, jetés vifs dans les temps de feu. Nous disons encore seulement ce mot pour bien montrer qu'il s'agit, à partir du verset 18 de ce qui est futur, remarquons la différence entre deux versets, entre quelques phrases d'un verset ou deux. Verset 12, que disons-nous? Et un temps de détresse fut assigné au sacrifice continuel pour cause de transgression. Les Juifs s'étant hellénisés, les Juifs s'étant laissés aller après le retour de la captivité dans des conditions que nous connaissons bien, il y avait donc chez eux la transgression que Dieu va visiter par un châtiment qui s'exerce par le moyen d'Antiochus Épiphane qui a fait énormément souffrir les Juifs. Jusqu'au moment d'un réveil, d'un rétablissement, de la purification du sanctuaire, les jours qui sont donnés là sont très intéressants dans ce chapitre 8. Et enfin, le temple retrouvé quant à son utilisation pour le culte de l'Éternel a donné lieu à la fête des Lumières. C'est la fête de la dédicace dont le Seigneur, dont il est question dans l'Évangile selon Jean. Le temple a été rendu à son usage sacré, c'est donc la fête de la dédicace ou des Lumières que les Juifs célèbrent encore aujourd'hui. Alors vous voyez autant à cause de la transgression. Lisons verset 23. On voit que ce n'est plus la même chose. Au verset 23, « Et au dernier temps de leur royaume, quand les transgresseurs auront comblé la mesure. » Au dernier temps, les transgresseurs auront comblé la mesure. Tandis qu'au temps d'Antiochus, dans le verset 12, à cause de la transgression. Mais demain, cette transgression va dépasser toutes les mesures. Pourquoi? Dans quel sens? Eh bien, nous le savons, l'Antichrist qui se fera passer pour Dieu s'assiera dans le temple de Dieu à Jérusalem. Là, toutes les mesures seront dépassées. Donc, pour l'histoire, à cause de la transgression. Mais dans le futur, les transgressions auront dépassé toutes les mesures. Même exemple avec le verset 11, c'est le dernier mot que nous disons. Au masculin, pour bien montrer qu'il s'agit d'un personnage particulier, c'est lui qui fait cela, c'est Antiochus. La corne fait tout le reste, mais lui particulièrement, ce 8e roi, dont la carrière est remplie d'iniquité, c'est lui qui, dans le verset 11, s'élève jusqu'au chef de l'armée. Or, qui est le chef de l'armée? Il suffit que nous lisions attentivement dans l'Ancien Testament, et nous savons bien que c'est l'Éternel qui est le chef des armées, dans le livre de Job, dans l'histoire de Josaphat et d'Acasia et d'Akab. Le chef de l'armée est là et les anges paraissent devant lui. Le chef de l'armée, c'est-à-dire celui qui dirige tout le monde angélique, auquel tout le monde angélique obéit. Or, que lisons-nous maintenant dans le verset 25, ce n'est plus la même expression. Au verset 25, nous lisons, il fera prospérer la fraude dans sa main, ce roi du Nord futur, et nous lisons ensuite, et par la prospérité il corrompra beaucoup de gens, et il se lèvera contre le prince des princes, non plus contre le chef de l'armée. Il y a une nuance importante, vous voyez. Maintenant, c'est contre le prince des princes. Mais jusqu'à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à son exaltation, il n'était pas connu comme le prince des princes, comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. De sorte que Antiochus s'est élevé contre le chef de l'armée, c'est-à-dire contre l'Éternel et contre les droits qu'il exerçait sur son peuple, contre le culte qui devait lui être rendu, mais dans l'avenir, c'est contre le prince des princes, celui que Dieu a exalté, prince et seigneur, et qu'il a fait asseoir à sa droite. Vous voyez, ces petits détails montrent bien qu'il ne s'agit pas des mêmes personnages. C'est beaucoup plus long que on le souhaitait, je regrette.
Quelques détails de ces versets 18 à 27. On rappelle ce qui a été dit au cours de l'autre réunion, qu'il y a donc une alternance en ces chapitres. Dans les chapitres 7 et chapitre 9, c'est l'emprise essentiellement de l'Occident sur Israël, et au chapitre 9 plus particulièrement sur Jérusalem, dont il est question. Chapitre 8, 10, 11 et 12, c'est donc l'emprise essentiellement de l'Orient, des puissances de l'Orient. C'est ce qui explique que, comme on vient de le dire, la corne dont il est question là au chapitre 8 n'est absolument pas celle à laquelle dont il est question, n'est pas du tout la même que celle du chapitre 7. Chapitre 7, l'Empire romain, ici, c'est l'Assyrien. Comme il parlait avec moi, dit le verset 18, j'étais dans une profonde stupeur, ma face contre terre, il me toucha et me fit tenir debout à la place où j'étais. C'est un tableau très remarquable de voir le prophète accablé par ce qu'il entend, par la vision qu'il reçoit, courbé contre terre, et un ange, l'ange Gabriel. Ceci nous touche aussi, l'ange Gabriel. C'est cette même intervention angélique que nous verrons au début de l'évangile de Luc, venant apporter ses beaux messages à Élisabeth, à Marie. Il est là. Il trouve ici un prophète courbé contre terre, stupéfié. Il le fait se redresser. Et le fait se tenir debout et lui précise que ce qui va arriver dans un temps très prochain, donc ce qui a été ce qui avait été expliqué au début, entre les versets 11 à 14, donc Antiochus Épiphane, se reproduira donc dans les temps de la fin. Et alors sous quelle forme? Eh bien voici, je te fais connaître ce qui aura lieu à la fin de l'indignation. L'indignation, on y est souvent revenu, est essentiellement cette période où le peuple infidèle est rejeté par Dieu. Et il est donc sous la domination des nations. C'est là l'indignation. Car à un temps déterminé sera la fin. Alors le bélier, il reprend donc l'histoire, le bélier, donc le roi de Médie et de Perse. Le bouc velu, verset 21, c'est le roi de Javan, donc la Grèce, l'empire grec. La grande corne, nous le savons historiquement, a été Alexandre le Grand, Alexandre Ier, Alexandre le Grand. Elle est brisée et les quatre autres cornes qui se sont élevées, ce sont donc les quatre royaumes qui ont suivi, donc les quatre généraux qui ont suivi. Et on a rappelé quels ont été ces quatre royaumes, dont deux essentiellement nous intéresserons par la suite, c'est-à-dire l'Assyrien qui devient le roi du Nord et l'Égypte qui devient le roi du Midi, parmi ces quatre, les autres étant essentiellement donc Grèce ou Macédoine et la Thrace. Alors, les quatre cornes sont élevées à sa place, c'est que quatre royaumes s'élèveront de la nation, mais non avec puissance. Verset 23, « Au dernier temps de leur royaume, quand les transgresseurs auront comblé la mesure, il s'élèvera un roi au visage audacieux et entendant les énigmes. Alors, voilà que maintenant, l'attention est attirée essentiellement sur l'un de ces quatre royaumes, le roi du Nord, l'Assyrien. Et ici, ceci va être complété ensuite par des prophéties de l'Apocalypse. Mais alors, au dernier temps de leur royaume, quand les transgresseurs auront comblé la mesure, il s'élève un roi au visage audacieux, entendant les énigmes, et sa puissance sera forte, mais non pas par sa propre puissance. Et il détruira merveilleusement, prospérera et agira, il détruira les hommes forts et le peuple des saints, et par son intelligence il fera prospérer la fraude dans sa main et il s'élèvera dans son cœur. Et il corrompra beaucoup de gens. Voici donc quel sera cet Assyrien futur, ce roi du Nord futur, qui non seulement agira par ses conquêtes, mais agira aussi par la séduction. Il agira par la séduction. Il sera non seulement celui qui aura conquis et dominera le pays de beauté, mais celui qui, par conviction, par séduction, par tromperie, voudra être pour le peuple d'Israël futur comme un rabbi, comme un docteur, comme celui qui, imprégné de paroles de sagesse, va leur parler la sagesse. Et Israël et le peuple d'Israël, à part le résidu, seront séduits par les paroles de cet homme-là. Il aura, il lui sera donné, et c'est ce que nous voyons là, une des paroles de sagesse, comme il en avait été donné dans le passé à Salomon. Et la comparaison avec la sagesse qui a été donnée à Salomon est quelque chose de très remarquable venant de quelqu'un qui est en réalité un faux docteur. On comprend peut-être un peu mieux à travers ceci qui n'est pas complété que, au verset 25, il fait prospérer la fraude dans sa main, s'élève dans son cœur, et par la prospérité il corrompra beaucoup de gens. Et à ce moment-là alors, quand enfin on comprendra que ces paroles sont fallacieuses, qu'il trompe, qu'il séduit, qu'il s'agit d'un séducteur, que, et nous arrivons là, si on peut dire prophétiquement, à peu près à la demi-semaine, à la dernière demi-semaine, que le peuple d'Israël, éprouvant qu'il est trompé, ira chercher appui sur une autre puissance, qui sera alors l'Empire romain, qui avec son chef, qui à ce moment-là sera l'Antichrist, voudront se défendre de ce séducteur venu du Nord. Ici, la prophétie de Daniel s'arrête simplement à ce séducteur venu du Nord, qui après sa conquête, essaye de séduire. Et le moment viendra alors, jusqu'où il s'élèvera contre le prince des princes. Le prince des princes, comme nous le savons, c'est le Christ lui-même, qui viendra donc pour régner, et il sera brisé sans main. Pourquoi sans main? Parce que jusque-là, les voies de Dieu faisaient que une nation était détruite par une autre nation, un bras devenait plus fort qu'un autre bras, il n'y a là l'axio de qu'un bras, il est détruit sans main, c'est Dieu lui-même, en personne, qui détruit cet ennemi. Il sera brisé sans main. Et la vision du soir et du matin qui a été dite est vérité, et toi sers la vision, elle est pour beaucoup de jours. Voici donc une petite, si on peut dire, un projecteur sur une région simplement, la partie nord de la Palestine, sur ces temps de la fin. Rien ne nous est donné là de ce qui vient, si on peut dire, par l'Occident.
Le temps est celui de Ésaïe 10. Ésaïe 10, le verset 5. Ah, l'Assyrie, verge de ma colère, et le bâton qui est dans leurs mains, c'est mon indignation. Je l'enverrai contre une nation profane. Ceci nous montre que si les nations continuent leur histoire, c'est permis par Dieu. Dieu, d'une manière dispensationnelle, de manière indirecte, providentielle, dirige toutes choses. Les nations conservent leurs responsabilités. Elles seront jugées en particulier en rapport avec la conduite qu'elles auront tenue à l'égard du peuple d'Israël. Et dans le prophète Zacharie, dans un passage bien connu de chacun, nous dit que les nations, je vous enverrai vers les nations qui ont fait de vous leur proie. Eh bien, celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. Sauf que la Syrie en particulier sera jugée parce qu'elle aura fait du mal à Israël. Mais en même temps, la Syrie est la verge de la colère de Dieu et un bâton qui est dans la main de Dieu pour châtier son peuple et pour l'amener enfin à revenir à lui-même, à reconnaître le crime de la mise à mort de Christ et dans un esprit de grâce et de supplication, retrouver la restauration finale. Alors, la Syrie est le fléau qui inonde. Un autre passage important à la suite de ce que notre frère a dit dans Ésaïe 28. Et Ésaïe 28 est probablement le passage le plus remarquable qui nous montre comment le peuple d'Israël, plutôt les juifs apostats au milieu de ce peuple, vont aller chercher du secours ailleurs pour éviter le danger du roi du Nord qui va venir fondre sur eux comme une tempête. C'est un passage connu qui a souvent été cité dans les écrits prophétiques. Ésaïe 28, les versets 14 à 18. Homme moqueur qui gouverne ce peuple qui est à Jérusalem. Vous avez dit, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le Shéol. Si le fléau qui inonde passe, il n'arrivera pas jusqu'à nous, car nous avons fait du mensonge notre abri et nous nous sommes cachés sous la fausseté. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici, je pose comme fondement en Sion une pierre éprouvée, une précieuse pierre de coin, un surfondement. Verset 18, votre alliance avec le Shéol, la mort sera abolie, et votre pacte avec le Shéol ne subsistera pas. Lorsque le fléau qui inonde passera, vous serez foulés par lui, dès qu'il passera, il vous prendra. Alors, le fléau qui inonde, c'est le roi du Nord, la Syrie, qui va traverser le pays de Jérusalem, la terre d'Israël, pour régler en fait son différend avec le roi du Midi. Dans la plaine de Megiddo, d'ailleurs, qu'aura lieu cette confrontation finale. L'alliance avec le Shéol et le pacte, l'alliance avec la mort et le pacte avec le Shéol, c'est le double accord qui interviendra entre les Juifs apostats qui habiteront à Jérusalem et qui auront d'ailleurs rebâti le quatrième temple, là même où, du reste, le sacrifice continuel sera ôté au milieu de la semaine, et qui s'appuieront à la fois sur l'Antichrist qu'ils auront reçu comme Messie, en se trompant, et sur la bête romaine, qui sera l'instrument actif, puissant, politiquement, pour soutenir cette action des Juifs. Eh bien, cette double alliance sera brisée par Christ. Et le fléau qui inonde interviendra quand même pour châtier les Juifs apostats, mais comme cet Assyrien est le dernier ennemi reconnu lorsque Christ est déjà entré au milieu de son peuple, il sera en définitive châtié et il sera complètement mis à néant. C'est ce qui nous est dit, sans trop anticiper, à la fin, le dernier paragraphe de Daniel 11. Le sujet est tellement vaste et il est répété plusieurs fois qu'il est difficile de ne pas s'égarer. Le roi du Nord, verset 40, se fondra sur lui comme une tempête. Le roi du Nord fondra comme sur l'Égypte, comme une tempête, et la guerre aura lieu sur la terre d'Israël. Et il nous est dit au verset 45, il plantera les tentes de son palais entre la mer et la montagne de Sainte Beauté. Et il viendra à sa fin, il n'y aura personne pour le secourir. Le caractère de l'Assyrien, et nos frères qui nous ont enseigné ont toujours insisté sur ceci, c'est que c'est le dernier ennemi. Lorsque le peuple est déjà reconnu de Dieu, lorsque Christ même s'est déjà révélé au milieu de son peuple en puissance. C'est-à-dire, on peut penser qu'historiquement, ces derniers événements auront lieu après le retour en gloire de Christ sur la terre, accompagné de ses saints. Cette délivrance finale aura lieu à l'occasion du deuxième siège de Jérusalem. Les sièges de Jérusalem ne sont pas directement mentionnés dans Daniel, nous en disons juste un mot en passant pour le bénéfice de nos jeunes. Il y aura deux sièges à Jérusalem, qui correspondent aux deux grandes confédérations qui se seront liguées, qui se seront formées pour combattre contre Israël. La première sera dirigée par Edom, Psaume 83, contre les fidèles cachés du peuple d'Israël. Ce premier siège arrivera à prendre la ville et à détruire le tiers du peuple. Et il y aura une série de violences et d'humiliations épouvantables pour ce peuple. Le second siège n'arrivera pas à terme. Et Christ, qui était là, délivrera son peuple et anéantira l'Assyrien, le roi du Nord, de la faim. Il viendra dans ce moment-là, selon Zacharie, et ses deux pieds se tiendront en ce moment sur la montagne des Oliviers. Et alors là, ils fuiront. Ils se rendront compte qu'il n'y avait plus d'espoir. Pour ceux que la question intéresse en détail, la fin d'Ézéchiel, dans les chapitres 38, 36, 37, 38 et 39, nous donne toutes sortes de détails. Et la purification finale, d'ailleurs, est citée en Daniel 12, tout à la fin de notre livre, à partir du moment où l'abomination qui cause la désolation est déplacée, il y a 1290 jours, alors qu'historiquement, ce ne sera que 1260 jours. Les 1260 jours font 42 mois de 30 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi, une demi-semaine. Il y a 30 jours de plus, et puis celui qui attend doit parvenir à 1335 jours. Il faudra quelques jours de plus. Après cette dernière délivrance, lorsque l'Assyrien est anéanti, c'est la fin des épreuves, et le peuple va être restauré. Et il faudra toute une série d'une grande période pour que le peuple, le pays lui-même, soit complètement débarrassé. Je crois que c'est pendant 7 ans qu'en Ézéchiel 38, on amoncelle les armes qui ont été laissées par ces nations qui sont venues combattre au milieu d'Israël. Ces choses ont l'air d'être prophétiquement écrites il y a tellement longtemps qu'on peut penser qu'elles ne sont pas à jour, mais c'est totalement faux. Les choses sont presque saisies par les mains maintenant. Incidemment, d'ailleurs, je me suis posé la question lorsque la Grèce a failli basculer dans le camp communiste, juste avant que la Grèce intervienne, s'intègre au marché commun. Je m'étais demandé si Daniel 8 montre clairement que le roi du Nord doit être issu de l'Empire grec. Mais ceci ne prouve pas que la Grèce en tant que telle ne doit pas participer au regroupement des nations de l'Empire romain, puisque l'Empire grec a été remplacé par l'Empire romain. La seule chose que la parole nous dise, c'est qu'à partir de l'Empire grec, les quatre généraux d'Alexandre ont donné lieu à la formation des deux rois du Nord et du Midi, et le roi du Nord donnera lieu à la Syrie, à l'Assyrie et au grand groupe de l'Est. Mais je pense que la Grèce, effectivement, la chance est forte pour que la carte prophétique ne se réinverse pas. Il faut faire très attention parce que certains de nos frères, au début du siècle, ont donné une importance beaucoup trop grande à la Turquie. Parce que la Turquie avait un pouvoir extraordinaire à l'époque. En fait, c'était simplement passager. Les choses sont complètement renversées dans l'intervalle. Il ne faut pas. Je crois que c'est une leçon d'humilité que nous avons à apprendre. N'allons pas au-delà de ce que la parole nous enseigne. Et pourtant, je pense que d'être sensible à ces choses qui sont tout à fait tout près de nous, peut-être sommes-nous à 7 ans juste de la fin de ces choses, puisque l'Église va partir, quelques jours après, probablement, l'horloge prophétique reprendra. Mais rappelons-nous, tous, jeunes et plus âgés, frères et sœurs, que aucune période, aucune année, aucun temps n'est compté pour l'Église. Les mêmes vierges qui s'étaient endormies se réveillent. Les mêmes églises qui formaient la base dans laquelle l'Esprit nous a expliqué ce que devait être le déroulement de son histoire de l'Église responsable sur la terre, ces mêmes églises, en fait, manifestent l'histoire de la fin. Il n'y a point de date. Le Seigneur vient tout de suite. S'il nous avait donné une date, si nous savions que nous avions quelques années à attendre, est-ce que nous ne serions pas encore beaucoup plus endormis que nous ne sommes pratiquement? Il faut bien penser que le Seigneur vient tout de suite. Et nous devons être prêts à l'attendre, en même temps, prêts à le servir en l'attendant.
Nous aimerions simplement revenir sur une expression qui a toute son importance. Ce verset 24e, et sa puissance sera forte, mais non par sa propre puissance. Ce roi du Nord, cet Assyrien dont on a beaucoup parlé, sera un homme habile, habile politicien, audacieux dans le sens du cruel, mais il, toute sa diplomatie et toute sa puissance intellectuelle ne suffiront pas pour imposer sa volonté. Il devra s'appuyer par des alliances certainement humaines, politiques ou militaires sur une autre puissance. Et il a été fait allusion tout à l'heure au chapitre d'Ézéchiel, dans les chapitres 38 et 39, où il est particulièrement parlé de Gog, qui est en réalité
le roi du Nord dont il est parlé ici. Et nous voyons très bien, en particulier au début du chapitre 38 d'Ézéchiel, que ce Gog est le prince de Roche de Méchec et de Tubal, qui se trouve dans le pays de Magog. Et par ailleurs, nous savons que ce sont des contrées, en particulier par Genèse 10, que ce sont des contrées qui sont situées dans la région de l'Arménie, autour de la mer du Nord, cela signifie de la mer Noire. Cela signifie d'une façon presque évidente, et nous n'avons pas besoin de l'histoire pour le savoir, que ce prince, cet Assyrien, va s'appuyer sur toute la puissance russe. Et même si cela ne nous avait pas été annoncé, nous pouvions être bien certains qu'un jour ou l'autre, et les faits sont là maintenant, qu'un jour ou l'autre, la puissance de ce pays deviendrait extraordinaire et servirait d'appui au roi du Nord, de ce Gog, pour envahir la terre de beauté. Il y a donc là une confirmation étonnante de ce qui est en train de se préparer maintenant, même si, comme on l'a dit, il fallait être très prudent dans les estimations. J'aimerais maintenant dire encore un mot au sujet de l'attitude de Daniel dans toutes ces révélations. Et c'est un mot qui nous fait réfléchir et qui doit faire réfléchir aussi tout particulièrement les jeunes qui étudient la parole de Dieu, parce qu'il y a une attitude admirable, admirable de piété et de soumission et de crainte en même temps de la part de ce de Daniel. Et on voit que Dieu y répond d'une façon admirable aussi pour l'encourager, lui montrant sa pleine et totale puissance, montrant que tous ces événements sont finalement dans sa main. Nous voyons qu'il est dit qu'au verset 16e, que quelqu'un qui a l'apparence d'un homme, au verset 15, crie et dit à Gabriel, fais comprendre à celui-ci la vision. Et je fus effrayé, je tombai sur ma face. Et il me dit, comprends, fils d'homme. Et ensuite, un peu plus loin, au verset 18, j'étais dans une profonde stupeur, ma face contre terre. Et il me toucha et me fit tenir debout à la place où j'étais. Il y a dans la position de Daniel une crainte devant la révélation des pensées de Dieu qui est admirable de piété. Et il est à craindre que le sentiment de la grâce de Dieu nous fasse parfois oublier la majesté de ce Dieu dont Gabriel est le représentant et qui vient se présenter à Daniel pour expliquer la vision. Et voilà une attitude à laquelle doit nous conduire les révélations de Dieu. C'est une attitude de crainte devant la majesté de ce Dieu. Et nous voyons alors que Dieu va répondre à cette crainte de Daniel. Et il va répondre de deux manières. Premièrement, il lui dit ceci. Et il me toucha et me fit tenir debout à la place où j'étais. Il me dit, voici, je te fais connaître ce qui aura lieu à la fin de l'indignation, car à un temps déterminé sera la fin. Quelle joie et quel réconfort cela devait être pour Daniel. Parce que Daniel a eu la vision d'animaux terribles qui se confrontent. Et tout ceci en rapport avec son peuple, le peuple qu'il aimait et le peuple qui était déjà dans une profonde affliction. Et Daniel a cette vision que cette affliction n'est qu'un tout petit début, que cette affliction va être bien plus grande encore. Mais l'ange Gabriel dit, ceci c'est pour un temps déterminé. Dieu est au-dessus de tout, et c'est Dieu qui conduit toutes choses. Et quand Dieu voudra affliger son peuple, il l'affligera. Et quand Dieu voudra terminer l'affliction, il la terminera. Et voilà quelle confiance cela devait donner à Daniel qui était stupéfait devant la terreur que lui infligeaient ses visions. Et il y a aussi une autre réponse. Et toi, serre la vision car elle est pour beaucoup de jours. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est comme si Gabriel voulait dire à Daniel, et maintenant, garde cette vision dans ton cœur, parce que si c'est une vision terrible, si c'est une vision dure, c'est une vision angoissante, c'est aussi une vision où se manifeste la grandeur de Dieu dans sa sainteté, dans sa vérité et finalement dans son amour, parce que tout cela doit amener le peuple à la repentance et à la bénédiction finale. Eh bien, nous sommes sur un terrain différent que celui de Daniel. Nous connaissons la pleine révélation de la grâce et de l'amour de Dieu. N'oublions pourtant pas cette majesté de Dieu qui gouverne toutes choses, et pensons un peu, et cela doit nous infliger quelques terreurs, à ce que deviendra l'Église. Il en a été fait mention au début de ces entretiens. Cette grande prostituée, voilà ce que deviendra l'Église, Babylone, la grande prostituée. Eh bien, c'est ce que deviendra, ce que le cœur de Dieu a le plus aimé, cette Église qu'il a choisie comme épouse pour son Fils. Cela ne doit-il pas nous faire trembler de contribuer de quelque manière que ce soit à cette apostasie finale? Soyons fidèles et tremblons devant les pensées de Dieu, mais serrons ces pensées dans nos cœurs et sachons que Dieu est au-dessus de toutes choses et détermine tous les temps.
Une pensée à propos de ce qui vient d'être dit. L'ange Gabriel vient donc apporter deux réponses au prophète accablé. Et la première, il y a un temps déterminé pour la fin. Il y a un temps déterminé pour la fin. Et est-ce que cette situation de Daniel, courbé la face contre terre, ne nous évoque pas celle de notre Seigneur dans le jardin de Gethsémani, quand également la face courbée contre terre, il priait son Père que la coupe passât loin de lui? Un ange vint là et le fortifia. Et l'évangile de Luc qui nous relate cela nous dit, ensuite, étant dans l'angoisse du combat, il priait d'autant plus instamment. Et sa sueur tomba en terre comme des grumeaux de sang. L'homme était défaillant. Les disciples qui auraient dû veiller s'étaient endormis de tristesse. Les disciples qui auraient dû prier ne priaient pas. Et quand l'homme est défaillant, Dieu envoie alors un ange pour fortifier. Mais que peut dire là? Ici, l'ange lui dit, il y a un temps déterminé pour la fin. Nous aimons, on l'a fait souvent, le rapprochement. Nous aimons penser que l'ange devait lui rappeler cette belle parole du psaume 102. Le psaume 102, comme nous le savons, évoque dans bien des traits ce qui s'est passé dans Gethsémané. Nous y avons là toute la solitude. Et nous avons dans la fin de ce psaume ces expressions « Il a battu ma force dans le chemin, il a abrégé mes jours, j'ai dit mon Dieu ne m'enlève pas à la moitié de mes jours. Tes années sont de génération en génération. » Et la réponse vient. Et c'est peut-être celle que l'ange a donnée. Tu as jadis fondé la terre, les cieux sont l'ouvrage de tes mains, eux ils périront, mais toi tu subsisteras. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, ils seront changés. Mais toi tu es le même, et tes années ne finiront pas. Celui qui est là courbé en terre parle de jours, et même de jours abrégés. Et son Dieu lui répond par l'ange, tes années ne finiront pas. Tu es le même. Tu es, oui, devant moi, homme courbé. Mais tu restes Dieu, qui subsiste d'éternité en éternité. Telle était la réponse de l'ange. Une expression encore dans notre lecture, cette expression qu'il sera détruit sans main. sans main. C'est l'intervention directe de Dieu. J'aimerais rapprocher cette expression d'un verset du livre de Job. Au chapitre 34, où nous lisons au verset 19, il ne fait exception de personne, de la personne des princes, qui n'a pas égard aux riches plutôt qu'aux pauvres, car ils sont tous l'œuvre de ses mains. Ils mourront en un moment. Au milieu de la nuit, les peuples chancellent et s'en vont, et les puissants sont retirés sans main. Combien souvent dans la faiblesse de notre foi, quand nous voyons des obstacles insurmontables, nous demandons à Dieu un moyen pour lever l'obstacle. Et cette réponse est belle. Au-dessus des moyens que nous demandons à Dieu, il y a Dieu en personne qui peut intervenir de façon directe et quelquefois inattendue, mais toujours merveilleuse. Ne demandons pas seulement quand quelque chose nous dépasse que Dieu donne un moyen. Demandons-lui qu'il intervienne lui et laissons-lui, lui, choisir le moyen qu'il jugera.
Le sujet de ce qui vient d'être dit au début de l'intervention de notre frère, j'aimerais simplement rappeler ce verset du prophète Michée qui est tellement beau. C'est à la page 641, Michée 5, verset 2. « Et toi, Bethléem, Ephrata, bien que tu sois petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël et duquel les origines ont été d'ancienneté dès les jours d'éternité. » Voilà la manifestation au début de ce verset. La manifestation du roi qui doit dominer sur Israël. Il vient de la plus petite bourgade, de celle qui avait le moins d'importance, de la tribu la plus faible. Voilà où est né celui qui doit dominer sur Israël. Mais celui-là, c'est aussi celui qui est d'éternité. L'humiliation du Fils de Dieu fait chair la glorieuse destinée de ce roi qui dominera sur Israël. Ephrata signifie fécond, Bethléem signifie maison du pain, et de ce qui est petit vient la nourriture.
Avec le ciel, la manière dont Dieu avait les yeux sur son serviteur. Et si nous voyons d'une manière si évidente la faiblesse humaine en Daniel, en rapport avec les révélations si remarquables, si effrayantes aussi, nous voyons toutes les compassions de Dieu à l'égard de son cher serviteur. Il y a certainement une relation entre la manière dont Daniel ici se comporte et l'objet des soins de Dieu du ciel et au début du livre, la manière dont Daniel s'était d'abord séparé à la cour du roi de Babylone. On peut dire qu'historiquement, c'est tout à fait remarquable, Daniel n'est probablement jamais remonté de Babylone. La prophétie du chapitre 10 est datée 2 ans après le retour d'Israël dans sa terre. On peut même penser d'ailleurs d'après Zacharie 6. Il m'a toujours semblé qu'il y avait un lien entre ce que Christ avait gardé pour son cœur à Babylone, dans le lieu de la transportation du peuple, est-ce que Christ avait aussi pour la joie de son cœur reformé dans la terre promise? Mais Daniel n'est probablement jamais remonté. Il avait environ 80 ans dans la fosse aux lions, et il a reçu les visions suivantes lorsqu'il était encore plus âgé. Eh bien, Daniel est présenté une fois comme étant un fils d'homme, chapitre 8, verset 17. Je crois que c'est la seule fois. Alors qu'Ézéchiel est habituellement appelé par l'Esprit Saint, par la parole, fils d'homme. Fils d'homme parle au fils d'Israël. Mais Daniel, en plus, est un homme bien-aimé. Il est bien-aimé au verset 23 du chapitre 9. Et puis au chapitre 10, c'est un homme bien-aimé. Pourquoi est-il appelé ainsi? Bien parce que Dieu avait les yeux sur lui. Parce que Daniel a su prendre la seule position qui convenait lorsqu'il a découvert par les Écritures que le temps de l'affliction du peuple allait prendre fin. Au lieu de se réjouir, il s'humilie. Non pas que la joie n'ait pas eu sa place, puisque ce sera celle des jeunes lorsque le temple sera rebâti, en Esdras. Mais ce qui convenait maintenant, c'était l'humiliation et le jugement de soi-même et la confession du péché du peuple. Alors que lui dit, que dit l'Écriture? D'abord, Gabriel est venu pour le soutenir. Chapitre 9, le verset 21, qui correspond au chapitre 8, au verset 16. Gabriel lui fait comprendre la vision, et Gabriel est envoyé du ciel pour soutenir Daniel après sa confession et cette merveilleuse prière du chapitre 9. Il est appelé l'homme bien-aimé, chapitre 9, verset 23. « Je suis venu pour te la déclarer, car tu es un bien-aimé. Comprends donc la parole et sois intelligent dans la vision. » Au chapitre 10, nous avons Christ, qui est dans cet homme vêtu de lin, qui va particulièrement s'occuper de Daniel plus tard. Et il dit au verset 11, « Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je te dis et tiens-toi debout à la place où tu es. » Et ceci correspond justement à cet anéantissement de la nature de Daniel qui était manifesté d'abord dans le chapitre 10, des versets 2 et 3, et dans le chapitre 8, de verset 8 du chapitre 3.
Deuxième empire, le royaume des Mèdes et des Perses. Nous sommes revenus en arrière pour considérer cette vision. Car effectivement, la captivité devait durer 70 ans. L'Éternel l'avait dit à Jérémie plusieurs fois. Et évidemment, il ne s'agit pas d'un nombre d'années arbitraire. On l'a souvent fait remarquer dans le chapitre 26 de Lévitique et dans le dernier chapitre du second livre des Chroniques, Dieu nous donne une raison majeure à la transportation, c'est-à-dire l'inobservance des sabbats. Le sabbat était un signe pour Dieu, que Dieu avait établi pour établir, pour maintenir et pour manifester la qualité des relations entre Dieu et son peuple. Lorsque les choses sont en bon état, le sabbat est observé. Hélas, nous savons que la chose fut laissée de côté, de même que l'année sabbatique, au temps de Néhémie, pourtant un jour de réveil, nous savons avec quelle énergie cet homme de Dieu doit s'employer pour que les Juifs s'abstiennent de faire du commerce le jour du sabbat. À la fin du livre de Néhémie, nous voyons cela. Alors pourquoi 70 ans? Elle touche à leur fin, et Daniel le lit, le comprend par l'Esprit de Dieu. Et Assuérus a été fait roi, marquant passant que les hommes estiment que grâce à leur sagacité politique, à leur combinaison et au succès de leurs armes, ils atteignent certains objectifs qu'ils se sont fixés. Mais après tout, c'est Dieu qui gouverne. Et Assuérus a été fait roi. Dieu nous dit dans le livre des Job, par exemple, qu'il établit les nations, il les développe, il les laisse se développer, et puis il les ramène. Il assied quelqu'un sur le trône, et ensuite il le culbute. Et il élève aux plus hauts honneurs, livre de Daniel chapitre 2, les hommes les plus vils. C'est l'affaire de Dieu. Nous n'avons rien à voir dans le gouvernement de ce monde, et Dieu le poursuit, quoique d'une manière cachée. Alors nous répétons cette petite question, pourquoi 70 ans de captivité? Eh bien, par Lévitique 26 et la fin de Deux Chroniques, nous avons la certitude que Dieu a tenu compte des années sabbatiques qui n'ont pas été observé. Toutes les 7 années, il fallait donc que la terre se repose pendant ce temps de son travail, comme l'homme. Et si l'on fait le compte, depuis l'établissement du royaume jusqu'à la captivité, eh bien, il y a exactement 70 fois 7 années. Donc, 70 fois 7 années, nous disons bien. De sorte que Dieu réclame les années dont il a été frustré, en établissant la durée de la captivité, 70 ans. Et deuxième petite remarque, c'est Assuérus qui monte sur le trône de la semence des Mèdes. Bientôt, c'est Cyrus qui va succéder. Il y a donc bientôt 70 ans, 70 ans, que Daniel est parti en captivité. Quand nous disons qu'il a atteint un âge avancé, 85 ans, eh bien, nous ne nous trompons pas, puisqu'il y a 70 ans, depuis Daniel 1, verset 1, 606 avant notre ère, jusqu'à 536, première année de Cyrus. Et le roi Assuérus, ici, dont il est question, va peut-être régner 2 ans. Il est l'oncle de Cyrus qui va prendre les destinées du royaume en main et va donner donc la prééminence à la semence perse. La semence des Mèdes sera laissée de côté. Donc nous retenons 70 ans, cela n'a rien d'arbitraire et personne ne pouvait comprendre cela. Il a fallu que l'Esprit de Dieu réveille l'Esprit de Daniel et le voici maintenant arrivé à la fin de ce sombre temps. Et au lieu de remonter de la captivité et de se réjouir, au contraire, nous avons un homme de Dieu qui s'identifie avec la ruine du peuple de Dieu. Il va comprendre par la révélation qui lui sera faite subséquemment que le Messie sera retranché et n'aura rien. Qu'allait-il aller faire dans la terre d'Israël? Pour lui, il va achever sa carrière en captivité, pleurant, menant deuil sur l'état de ce pauvre peuple, s'identifiant avec lui et étant ainsi parfaitement et particulièrement agréable à Dieu.
On notera que la délivrance du peuple d'Israël, qui était donc en captivité, plutôt des deux tribus de Juda et de Benjamin, en captivité à Babylone, cette délivrance a suivi immédiatement le comble de l'iniquité parmi la première nation des Chaldéens, puisque c'est à la suite du festin de Belshazzar qui est rapporté dans le verset, dans le chapitre 5. Et le dernier verset de ce chapitre 5 nous dit « Darius, dans cette même nuit-là, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius le Mède reçut le royaume étant âgé d'environ 62 ans. » C'est le même Darius dont il est donc question au début de notre chapitre. La première année de Darius, fils d'Aspirus, de la semence des Mèdes, qui fut roi, il fut faire roi sur le royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel. Le peuple a été effectivement délivré par Cyrus, roi de Perse. Cyrus est appelé loin de l'Éternel dans un passage connu d'Ésaïe. Mais la chose remarquable, c'est que, comme toutes les choses s'équilibrent dans les pensées, dans les voies de Dieu, d'un côté, Dieu, parce que son peuple d'Israël avait été trop infidèle, il n'y avait plus de remède, lui a retiré le gouvernement du monde. Dieu est remonté dans la nuée de sa demeure terrestre, pour ainsi dire se cacher aux yeux du monde dans le ciel. Il est le Dieu des cieux. Et c'était bien à cause de l'iniquité de son peuple, qui en avait tellement fait qu'il ne pouvait plus subsister. Et la nuée est partie avec regret. Elle ne revient plus, elle ne reviendra que dans les temps prophétiques futurs. Alors la puissance, le gouvernement est confié maintenant aux nations. C'est le temps des nations qui commence. Et le pouvoir absolu est confié à Nabuchodonosor, transmis dans une forme un peu atténuée à son fils Belshazzar. Alors que fait Nabuchodonosor? Il se laisse complètement emporter par l'idolâtrie. Dans la plaine de Dura, dans la plaine de Babylone, il bâtit une idole, et pour ainsi dire, il se fait idole à lui-même, et veut que tout le monde vienne se prosterner devant lui, devant son image. Il perd complètement la notion de sa relation avec Dieu, et descend au rang d'une bête. Et puis son fils, que fait-il encore plus? C'est l'impiété. Il souille les instruments de la louange, du culte d'Israël, et fait un immense festin, auquel d'ailleurs deux personnes n'ont pas assisté, ni la reine-mère, ni Daniel. Daniel va annoncer le jugement de ce roi, par la main qui trace cette terrible écriture sur le mur. En cette même nuit-là, Dieu répond à l'impiété, comme il avait répondu à l'idolâtrie de Nebuchadnezzar. Donc voilà le côté de la responsabilité. Mais si le gouvernement a été transféré aux nations à cause de la misère d'Israël, de la même manière, la nation juive, Juda et Benjamin, vont être retirés de cette transportation, ramenés dans leur terre, mais comme conséquence, quant aux nations, de l'infidélité de Belshazzar. En même temps, les pensées et les conseils de Dieu s'accomplissent. Dieu n'a pas laissé une année seulement son peuple, au-delà de ses 70 ans rendus nécessaires pour que le peuple jouisse de ses sabbats, parce que le peuple n'avait pas gardé le sabbat de l'Éternel pendant qu'il jouissait des bénédictions de Dieu dans sa terre.
Daniel est donc conduit à ouvrir les Écritures et à en chercher l'instruction. On peut se demander pourquoi un si long temps s'est écoulé entre le moment où le prophète Jérémie avait écrit son livre, et celui où Daniel, on l'a dit environ 70 ans plus tard, va comprendre les Écritures. Est-ce le cheminement des Écritures? Peu importe, Dieu ne nous en parle pas. Mais disons qu'il peut y avoir un temps long, mais Dieu l'a permis. Alors qu'a-t-il lu dans les Écritures? Il y a un passage qu'on a déjà relevé tout à l'heure. Lisons les deux passages essentiels de ce prophète Jérémie qui ont éclairé la lumière de Daniel. Le premier est au chapitre 25. Au chapitre 25 du livre de Jérémie, au verset 9, « Voici j'envoie, et je prends toutes les familles du Nord, dit l'Éternel, et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Et je les ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ses nations alentour. Et je les vouerai à la destruction. J'en ferai une désolation et un objet de sifflement et des déserts perpétuels. Et je ferai périr du milieu d'eux la voix de l'allégresse et la voix de la joie, la voix de l'époux et la voix de l'épouse, le bruit des meubles et la lumière de la lampe, et tout ce pays sera un désert, une désolation, et ces nations serviront le roi de Babylone 70 ans. Et il arrivera, quand les 70 ans seront accomplis, que je visiterai sur le roi de Babylone et sur cette nation-là leur iniquité, dit l'Éternel, et sur le pays des Chaldéens, et je le réduirai en désolation perpétuelle, etc. » Chapitre 29. Nous avons déjà lu donc les premiers versets, les circonstances dans lesquelles Jérémie a donc adressé son livre aux prophètes et à tout le peuple qui était en déportation. Et il était écrit là, au verset 9, « Car c'est avec mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel. Car ainsi, dit l'Éternel, lorsque 70 ans seront accomplis pour Babylone, je vous visiterai et j'accomplirai envers vous ma bonne parole pour vous faire revenir en ce lieu. » Car moi je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Et vous m'invoquerez, etc. Pour vous donner un avenir et une espérance. Alors nous pourrions penser que, lisant de telles pages, et d'autre part sachant que la fin des 70 ans s'approche, c'est un cri de joie qui va sortir du cœur de Daniel, ce vieillard. Un cri de reconnaissance envers son Dieu. Et on est frappé de ce dernier verset de notre lecture au chapitre 9 de Daniel, le verset 3. Je tournais, alors quand il a compris donc l'accomplissement de la désolation de Jérusalem et des 70 années, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu pour le rechercher par la prière et la supplication dans le jeûne et le sac et la cendre. Au lieu d'un cri de joie, c'est un serviteur qui se dépouille de lui-même, prière et supplication, par toutes sortes de prières, lisons-nous dans le Nouveau Testament, en Éphésiens, toutes sortes de prières, des prières et des supplications. Le jeûne, c'est l'oubli de soi-même, s'oublier soi-même pour se consacrer entièrement à Dieu. Voilà donc une attitude de séparation totale pour Dieu, tout entier devant son Dieu. Il se tourne vers lui et est tout entier occupé par sa prière, se vidant de lui-même, s'oubliant lui-même. Mais il ajoute à cela quelque chose. En signe de deuil, le sac et la cendre. Mardochée, chapitre 4 d'Esther, premier verset. D'autres également, Joël, plusieurs passages dans la parole, nous montrent des serviteurs qui ont ainsi me détaillé. Il prie, il s'oublie lui-même, il m'éteille. Et toute la suite de ce chapitre va nous éclairer et nous dire pourquoi ce serviteur prend conscience qu'il faut commencer par me détaillé.
Seulement deux expressions pour ne pas prolonger dans les textes qui ont été lus dans Jérémie 25 au verset 12 et il arrivera quand les 70 ans seront accomplis que je visiterai sur le roi de Babylone et sur cette nation-là leur iniquité et sur le pays des Chaldéens je les réduirai en désolation perpétuelle. Voilà la première visite de l'Éternel à l'égard des nations qui ont asservi son peuple. Et dans Jérémie 29, au verset 10, « Lorsque 70 ans seront accomplis pour Babylone, je vous visiterai et j'accomplirai envers vous ma bonne parole pour vous faire revenir en ce lieu, car moi je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de mal. » Visitation en jugement sur les nations, visitation en amour sur son peuple qu'il aime.
Le peuple de Dieu a donc été délivré cette transportation de Babylone par le jugement des Chaldéens. Et de la même manière, à la fin des jours, le peuple de Dieu sera délivré pour être introduit dans le privilège du royaume millénaire par le jugement du roi du Nord, par le jugement de l'Assyrien. Il est remarquable de voir comment ainsi Dieu conserve, même de façon providentielle, la haute main et dirige toutes choses pour que ses conseils s'accomplissent. Du point de vue contemporain, j'ai été extraordinairement frappé par ce changement de gouvernement en Iran, en Perse, il y a quelques années, puisque c'était en France même que celui qui actuellement est le chef de cet État d'Iran avait un refuge politique. Cet homme prend l'avion, arrive, le chat disparaît, et il y a un changement de gouvernement sans pratiquement que du sang soit versé. Il n'y avait aucune raison que le chat s'en aille et que cet homme prenne sa place. Les conseils de Dieu s'accomplissent. Avant que Babylone soit installée comme puissance, Babylone pendant 70 ans a eu l'hégémonie, a eu la puissance absolue sur le monde entier. Dieu n'a jamais donné sa puissance à qui que ce soit d'autre. Mais il y a eu un conflit entre l'Égypte et Babylone. Et le conflit s'est militairement réglé à Carpet-Climiche sur l'Euphrate. Parce que, en fait, l'Égypte avait la prétention de saisir ce pouvoir. Parce que l'Égypte s'est rendu compte, en fait, que Dieu abandonnait son peuple. Il n'a pas été ainsi de la pensée de Dieu. Et Dieu, en fait, voulait donner son pouvoir à Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar n'a pas du tout été à la hauteur, est tombé dans l'idolâtrie, son fils est tombé dans l'impiété, dans toutes sortes de mômes qui ont entraîné le jugement de la part de Dieu, mais de toute manière, les voies de Dieu s'orientaient pour que le peuple soit jugé et puis restauré.
La grande nation et les décrits, et les tons de divines nations. Job 12, verset 23.
Simplement un mot à cause de cette visitation en bien pour son peuple. Quand Joseph va être recueilli auprès de ses pères, sa dernière expression au peuple, c'est en Genèse 50, « Certainement Dieu vous visitera, certainement Dieu vous visitera. » C'était aussi un peuple réduit à l'état d'esclavage en Égypte, un temps qui a duré fort long. Et la pensée prophétique de Joseph le portant en avant peut dire « Dieu vous visitera. Une famille, parce que c'est la famine en Canaan, a quitté le pays de la promesse, celle d'Élimélec. Ils sont allés chez Moab pour chercher du pain. Et là, une pauvre veuve, privée de son mari, privée de deux enfants, restant avec ses deux belles-filles, entend que Dieu a visité son peuple pour leur donner du pain. Beaucoup plus tard, Zacharie, le père de Jean, peut dire devant le petit enfant qui naît, Jean, le baptiseur, le précurseur, Zacharie, son père, fut rempli de l'esprit, prophétisa disant, « Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, car il a visité, mais là il y a quelque chose d'ajouter, et sauvé son peuple. » Le salut venait, le petit enfant était là, Jésus lui-même, venant sur cette terre, non seulement visité, mais sauvé. Il y a plusieurs moyens de visiter. Dieu avait souvent dans le passé visité son peuple, comme le médecin qui visite un malade. Il scrute la plaie pour voir si elle est encore curable ou s'il n'y a pas de remède. Combien de fois Dieu a scruté la plaie de son peuple. Il y a aussi la visite en jugement, et nous l'avons souvent dans l'Ancien Testament. Mais nous avons aussi, et c'est là, cette dernière visite de quelqu'un qui était incurable, mais que quelqu'un vient de façon miraculeuse sauver au prix de sa propre vie.
65, 175, les trois premiers versets.
Thank you. Dans sa grâce souveraine.